tellement mieux.
Ah boy, va falloir avoir une grosse discussion. On est vendredi, je m'attendais pas à ça, mais Audrey nous donne de la misère. C'est moins 4 degrés sur Québec, c'est plein soleil. Bon Dieu, ça fait du bien. Je regardais ce matin, j'étais dans le stationnement dans le secteur de Le Bourgneuf, puis je regardais les oiseaux voler très haut dans le ciel. Et il avait l'air d'avoir bien du plaisir. Je me suis dit, tiens, c'est l'arrivée du printemps.
Bon.
Et je pense que dans les prochaines heures, les prochains jours peut-être sur la Grande Allée, il y aura des hommes.
T'es philosophique?
Les petits oisillots.
Oui.
Oui.
Ça fait crotter un peu du même. Ah, ça, là! Ça, c'est non, les gars, en passant.
Arrêtez. Non. C'est un moins 4 degrés qu'on a sur Québec actuellement. Je vais juste faire... Ouais, c'est ça. On est encore à moins 4 avec le refroidissement éolien. C'est une température ressentie de moins 9. Aujourd'hui, c'est plein soleil, maximum de 7 degrés. Ce soir, cette nuit, partiellement nuageux, minimum de moins 1. Samedi, du soleil avec un maximum de 9. Et dimanche, ce sera nuageux avec un maximum de quoi dimanche? Un maximum de 16 degrés.
Ooh.
Tranquillement, mais sûrement, vers le printemps.
C'est le fun, ça.
T'as-tu regardé l'éclipse à 3 h du matin, toi?
Cette nuit, moi, mon chum
Qu'est-ce
travaille...
Qu'est-ce qui se passe, Audrey?
Mon chum travaille dans le même domaine que nous autres, puis il fait le matin.
Ouais.
Fait que lui, son premier cadran sonne à 2h50.
Son premier cadran? Il y a combien de cadrans?
Mais là, ça, c'est ça l'affaire, là. Des fois, je me suis déjà demandé si c'était comme un enjeu d'éventuelle séparation.
Oui.
Là, parce que le premier sonne à 2h50, mais il se lève généralement aux alentours de 3h30.
Pose-toi pas de questions. C'est oui, c'est un enjeu de séparation.
C'est épouvantable.
Si ton chum se réveille pas avec une alarme...
Il y en a 8.
Tu le dompes.
Sur deux téléphones. En passant, sur deux types de cadrans. Fait que moi, j'entends des bruits, puis à un moment donné, le dernier cadran, là, souvent que j'entends, c'est une toune de Fred Pellerin.
De quelle heure à quelle heure?
De 2h50 le premier, puis il se lève souvent aux alentours de 3h30.
OK, mais pourquoi il met pas juste son cadran à 3h30?
Parce qu'il a besoin de ce temps-là pour commencer à se réveiller. Tu comprends? Puis il se rendort un peu, puis ça donne l'impression d'avoir une vie, j'imagine. J'ai aucune idée que je sais pas.
Ça, tu me sacs ça là.
Fait que à 3h.
Cancelle la maison. Cancelle les enfants. Tout, c'est fini.
À 3h ce matin, je me réveille parce que je me réveille toutes les nuits, tu sais. Puis là, ben, je trouve que c'est plus long que d'habitude avant qu'il se lève.
Ouais.
C'est comme... Des fois, je donne un coup de pied, là, on va l'en dire, le calice, parce que là, je suis en train de me réveiller pour vrai. Là.
Ouais.
Et là, cette nuit, il finit par se réveiller, puis il regarde dehors, mais je vois qu'il reste en bobette devant notre fenêtre. Nous autres, on a comme une fenêtre en L.
Il dort en bobette?
Ben, il dort avec des boxeurs à moitié troués, là.
OK.
Ouais. Fait que, parce que toi, tu dors tout nu, c'est ça?
À poil, mais c'est parce que je m'imaginais, tu sais, des vieilles bobettes à panneaux, là.
Ouais. Ouais. Non. Non, ça, ce serait déjà terminé depuis longtemps. Non, ça, je refuse.
Ouais.
Non, mais ça, j'imagine, c'est une affaire de chacun, mais il y en a qui aiment ça, que ça pend d'un bord puis de l'autre. Lui aime ça quand c'est en place. Puis,
tu parles de quoi, là?
Il y a de la misère à... Vous imaginez. Et lui, il a de la misère à dormir.
Tu parles de dormir à poil ou pas?
Ouais.
Il y en a qui dorment avec des gros pyjamas. Moi, j'ai tout le temps eu des blondes. Dans ma tête, qui était extrêmement sexy jour et nuit, mais le jour était très sexy, mais blonde. Mais la nuit, c'était épouvantable. Des pyjamas à pattes avec des grosses épaisseurs et tout ça.
Oh mon Dieu!
Fait qu'il t'hameçonne au début en étant « Bonjour, je suis sexy! » Puis après, comme 2-3 nuits, ils mettent des gros pyjamas là, avec des grosses pantoufles.
Ouais.
Puis des fois, ils ont comme des...
Des capuches.
Là, j'ai pas plusieurs blondes en même temps. Là. La façon dont je parle, c'est ça. Mais ouais, la petite capuche avec des petites oreilles. Là.
Oui.
Ouais, non.
J'en ai un de même.
C'est... Comment?
J'en ai un de même.
Ouais, c'est ça. Mais non, moi, ça n'a jamais été... Puis mes gars, curieusement, c'est peut-être dans notre ADN, mais mes gars m'ont jamais vu dormir à poil, puis ils dorment à poil les deux.
Oh, aussi?
Les deux.
C'est bien drôle.
Ouais.
Mais moi, tu vois, je suis de même aussi. Moi, j'ai de la misère à avoir du tissu. Il faut que je sente mes draps. J'aime ça, tu sais, sentir mes draps. Mais mon chum, lui, c'est ça, il aime bien avoir des bobettes.
Fait que là, il se lève à 3 h du matin.
Exact.
En bobette, puis regarde dehors l'éclipse.
Puis là, je trouve qu'il a l'air un peu philosophique, puis c'est quasiment épeurant de le voir juste debout, te regarder dehors. Là, tu comprends? Fait que je me réveille officiellement, puis il me dit, Audrey, t'as-tu vu dehors?
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a dehors? Mais la lune est rouge, je regarde.
Toi, t'es dans le milieu de ta nuit.
Je suis en plein milieu de ma nuit, moi, là. Mais il sait que j'aime ça, fait qu'est-ce que tu penses que je fais? M'élève bien drette, moi aussi. Fait que les deux, on est là comme des tatas devant la fenêtre, comprends, à moitié tout nu, à regarder la lune rouge.
T'as-tu pris des photos?
Non.
Tu deviens beau à voir dans la fenêtre.
Des fois, mon chum me dit, le voisin... Parce que moi, j'y pense pas, là.
Ouais.
Moi, je vis ma vie, là, jour et nuit, tu comprends? Puis moi, je me prépare tout nu. J'ai besoin d'être libre. J'aime ça, avoir du... J'aime pas ça. Fait que des fois, mon chum me dit, ouais, parce que nous autres, on n'aime pas mettre des rideaux. Fais attention, les voisins, Audrey, viens. Fait que cette nuit, on était là comme deux tatas, puis on regardait la lune rouge. Mais là, il y a un moment où il a fallu que j'aille me recoucher parce que lui, s'en allait dans la douche, vivre sa vie. Puis j'ai pas été capable de me rendormir. Fait que je t'ai écrit.
À 3 heures.
À 3 heures du matin. J'ai réglé. J'ai commencé à travailler à 3 heures du matin.
Recevoir un texto à 3 heures, ça me rappelait des souvenirs.
Tu t'es pas réveillé, hein?
Ben oui.
Arrête, Yann.
T'es dans mes contacts prioritaires.
Arrête, ça t'a pas réveillé.
Ben oui.
Me niaises-tu?
Mais non.
Ah, je savais pas.
Surtout que...
Je suis touchée.
Ce que tu m'as écrit...
C'était pas pertinent, hein?
Non.
Je pense que c'était genre, t'en penses quoi parce que tu m'as pas répondu.
Tu m'as juste répété quelque chose que tu m'avais dit comme quelques minutes avant ou quelques heures plus tard.
Tu répondais
avant.
Pas.
C'est ça. Mais parce que c'était pas prioritaire.
Ouais. Fait que je t'ai demandé de nulle part, t'en penses quoi, puis ça te réveille en plein milieu de la nuit.
Ouais.
Génial.
Ben là, je me suis dit, es-tu correct? Parce que moi, je vois juste Audrey Pinchot sur ma montre.
Arrête!
Ben oui.
Je suis pas le mal!
Je voyais Audrey Pinchot sur ma montre. J'ai dit, il est 3 h du matin, es-tu malade? Es-tu dans le trouble?
Oh non!
As-tu dormi encore chez Max? Puis il n'y a plus de place chez Max.
C'est ça, ça marche pas. Help!
Il était sur Saint-Joseph.
Ah!
Fait que là, j'ai vu que ça n'avait pas vraiment d'importance.
Non.
Fait que je t'ai répondu ce matin. Mais bref, qu'est-ce qui se passe, Audrey? T'as comme un lâcher-prise.
Tu trouves que j'ai un lâcher-prise?
Oui, puis dans cette émission-là, il peut y avoir deux personnes qui font du lâcher-prise. Puis j'étais là avant.
OK, c'est ça ta priorité, c'est ça que tu me dis.
Oui.
Fait que là, c'est une intervention que tu me fais.
Tous les matins, t'es dans le trafic. Tous les matins, tu me dis, Yann, je suis dans le trafic, ça va pas pantoute. Puis à tous les matins, je te dis, pars plus tôt. Puis le lendemain, t'es dans le trafic.
Oui, mais là, il faut que je te dise quelque chose, par exemple. Attends une minute, là. Il y a littéralement du trafic.
Oui.
De 6h30
exactement.
À 9h.
Ouais.
Fait que tu comprends-tu que peu importe l'heure à laquelle je pars là-dedans, là, je suis dans le trafic.
6h25, il n'y en a pas.
Oui, mais là, tabarnouche, Yann, j'habite à une heure de route, là. Si je... Wow.
Et?
Wow. Ma limite, elle est là. Avant, quand on a commencé ce show-là, j'étais un peu débile, puis c'est mon chum qui m'avait fait l'intervention.
Oui, tu m'as comme... On a tous connu ces personnes-là, là, en début de relation. Hommes comme femmes. Au début... Sous leurs plus beaux jours.
Ah, oui. J'étais très, très impliquée. J'arrivais ici à 7h30 le matin.
C'est tabarouette. Audrey, elle m'écrit le matin, elle m'écrit le soir. On s'écrit à la fin de semaine. On s'échange des articles, des idées. C'est super dynamique. Ce show-là va être incroyable. Puis là, je me suis dit, bon, ben parfait. Fais du lâcher-prise, Yannick. Audrey est là. C'est rendu ton esclave.
Et là, ce qui s'est passé, c'est exactement ça. Là, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais en train de me mettre dans une position. Ma mère, quand j'étais jeune, Yann me disait tout le temps, puis là, c'est une image. Audrey, si tu te mets à laver ses bobettes, tu vas être pris avec. Tu vas laver ses bobettes à vie. Tu comprends? Laisse-le laver ses bobettes. Et là, j'ai senti que je commençais à être pognée avec tes bobettes.
J'ai pas de bobettes.
Puis là, je me suis... C'est une image. Puis là, je me suis dit... Oh, ma mère, elle m'a dit jamais laver ses bobettes.
Ouais.
Fait que là, j'ai appliqué le... Ben non, je peux arriver un peu plus tard, travailler de la maison. Puis moi aussi, arriver dernière minute, peu dernière minute pour le show.
J'arrive pas à dernière minute, je suis le premier arrivé à la station.
Mais là, maintenant, oui, parce que t'as une discipline depuis 2025.
Ouais, un nouvel homme.
Mais moi aussi, j'ai changé ma discipline, tu vois. Tu m'as dit toi-même, tu m'as appris qu'il fallait que j'apprenne à dire non.
Exact.
Et alors, j'ai pris.
Mais pas à moi.
Ben là, c'est ça le problème. Je pense que tu vis ta propre... Tu vis un peu tes propres conseils.
Je voulais que tu t'améliores, mais pas avec moi.
Pas avec toi. Exact. C'est ça l'affaire. Fait que là, j'apprends à mettre mes limites pas à dire non, là, puis j'arrive plus tard. Puis un matin, j'ai demandé à Yann, pour la première fois depuis qu'on travaille ensemble, de faire une tâche précise que je fais d'habitude.
Puis d'accueillir notre invité qui est là pour l'émission de ce matin, qui devait arriver plus tôt pour un rendez-vous avec toi.
Oui.
Et t'étais pas là.
Oui. Mea culpa, t'as raison.
Fait que ton lâcher prise a un impact sur nous.
J'ai oublié qu'il fallait que j'aille gazer.
Oui, c'est ça.
Non, mais c'est vrai. Oui. Ce soir...
Hey, vous m'excuserez, je suis arrivé 45 minutes en retard. Fallait que j'aille mettre de l'essence.
Wow, je suis pas arrivé 45 minutes en retard. Je suis arrivé comme... Non, regarde-toi à te dire non. Je suis arrivé 10 minutes en retard.
Hey, on a des gens qui nous écoutent qui s'entraînent. On a des gens qui nous écoutent, qui mangent de mieux en mieux. On a des gens qui nous écoutent qui sont végétaliens. On a des gens qui nous écoutent qui sont végétariens.
OK.
Je m'adresse à tous vous autres ce matin. Parce que j'ai vu un article hyper intéressant sur Le Soleil. C'est un article de Jean-Benoît Legault et qui parle de la créatine.
Ah-ha.
Est-ce que tu as déjà entendu parler de la créatine?
Ben absolument.
C'est un produit que tu peux prendre.
Ça empêche de bander, ce qu'il disait dans le temps.
Ça quoi?
Ça empêche de bander, ça empêche l'érection. C'est ça qu'il disait.
Pas du tout.
Il y a des études qui avaient été faites, puis ça avait fait peur à tout le monde.
Tu trouveras pas ça. C'est pas ça. C'est les stéroïdes, ça peut effectivement créer un petit mou dans le milieu. Mais la créatine...
T'as testé?
T'en as... Non, pas moi. Mais j'ai jamais pris ces affaires-là. Mais la créatine, on nous donnait ça quand on arrivait dans les salles d'entraînement pour nous aider. Fouille-moi comme ça.
Au développement du muscle.
Fouille-moi pourquoi... mais ça fait en sorte que ton muscle gonfle parce que mm-hmm. puis tu as l'impression d'être plus fort. Fait que peut-être que quand on reparlera avec Gabardi, on lui parlera de ce fameux produit qui est la créatine, mais la créatine est présente dans la viande.
Mm-hmm.
Fait que si tu manges la viande, donc nécessairement tu peux avoir un bon taux de créatine pour passer tes journées sans aucun problème. Puis si tu t'entraînes, ben tu n'as peut-être même pas besoin d'un surplus de créatine pour t'entraîner parce que tu as mangé ta quantité de viande, entre guillemets.
Oui, mais le problème avec ce supplément-là, c'est que c'est comme dans tout, hein, c'est une question d'équilibre. Puis je pense que là où il y avait des problèmes, c'était dans l'abus. L'abus de la créatine. Parce qu'on disait qu'à un certain point, t'es gonflable. T'es bien musclé, mais t'es gonflable, dans le sens où, justement, ton muscle enfle. Fait que c'est pas si bon que ça. Mais c'est comme dans tout. C'est une question d'équilibre.
Là, je vais juste aller chercher c'est quoi les effets secondaires de la créatine, parce que tu me fais douter.
Tu t'es fait douter?
Les dangers insoupçonnés des produits utilisés en entraînement physique, là, ça c'est trop long à aller. Mais tu sais quoi? On en parlera avec Gabardi. C'est parce que c'est pas là que je voulais t'amener.
Vas-y.
Okay?
C'est les gens qui mangent pas assez de viande, dans le fond.
Il y a des. Quand tu manges la viande, tu as de la créatine. Si tu manges pas de viande, t'as pas de créatine. Puis si tu t'entraînes puis t'as pas de créatine, puis tu prends de la créatine, ben ça va t'aider. Si tu t'entraînes puis t'as pas de créatine puis tu manges pas de viande, ça se peut que ça soit correct ou ça se peut que ça te nuise un peu.
Ouais.
Ça sera
un supplément.
Ce sera aux spécialistes de nous le dire. Mais pourquoi je te parle de ça? C'est que les scientifiques ont fait des études à savoir est-ce qu'il y a des bienfaits sur la avec la créatine sur la santé mentale?
Hein?
Oui. Parce qu'on nous dit qu'il y a un fort pourcentage de la créatine qui s'en va directement s'entreposer dans tes muscles. Puis il y a un 5% qui est stocké directement dans ton cerveau, les reins et le foie. Et ils ont trouvé des personnes qui étaient en dépression. Et ils ont trouvé que les gens qui prenaient de la créatine, qui étaient en dépression, c'était des dépressions qui étaient plus jugées modérées que des dépressions jugées
lourdes.
Fait que ça va de légère à modérée si tu prenais de la créatine et tu étais en dépression, à lourde si tu n'en prenais pas du tout. Tu me vois-tu venir? C'est pour ça que je veux parler avec Gabardi parce qu'il connaît ça pas mal plus que moi. Là. Mais les gens qui ne consomment pas de viande puis qui ne consomment pas de créatine pourraient peut-être avoir un effet négatif parce qu'ils ne consomment pas de créatine.
Mais tu sais, tout est dans tout parce que les gens qui ne consomment pas de viande, mais la viande est aussi une protéine qui est nécessaire au fonctionnement de ton corps puis de ton cerveau. C'est un fuel. Tu sais, tout supplément, puis tout macro et micro nutriments, c'est nécessaire à ton développement, à ta concentration. Tu sais, je vais te faire un lien parallèle qui va nous amener exactement à la même place. Okay? Quand on a commencé à parler d'Ozempic, une des premières choses que les nutritionnistes décriaient, c'était le fait que Ozempic t'empêche de manger, donc tu perds du poids. Mais étant donné que ça t'empêche de manger, tu as moins d'énergie, tu as de la fatigue.
Et tu perds de la masse musculaire.
Oui, mais au niveau mental... Ça te crée une grosse lacune qui fait que les gens développaient des problèmes de santé mentale puis justement des genres de dépression parce que ton cerveau manque de gaz, qui est la nourriture. Fait que dans ma tête, ces deux points-là se rejoignent. Peu importe le supplément que tu prends, le point, c'est de manger tout ce que tu as besoin. Puis souvent, les végétaliens, végétariens et compagnie là, qui mangent pas de viande, puis... Il y en a, je ne veux pas parler pour tout le monde, mais il y en a qui ne substituent pas ça. Les protéines, ils n'en mangent pas assez, ils ne consomment pas assez de nourriture qui ont des bienfaits pour leur corps.
Mais la créatine, avais-tu déjà entendu parler?
J'avais jamais entendu parler que ce supplément-là pouvait avoir un effet sur le cerveau.
À Oxford, l'Université d'Oxford, on a recruté une centaine de sujets qui étaient dépressifs pour approfondir le sujet, la thèse qu'on avait. La moitié d'entre eux ont reçu une thérapie cognitive comportemental avec un supplément de créatine. Puis l'autre moitié, ils ont reçu la thérapie et un placebo. Et à la fin de l'étude, qui a été commentée par le docteur Fabiano, qu'on connaît bien, oui, les sujets qui avaient reçu une créatine présentaient une dépression jugée légère contre une dépression jugée modérée à très sévère pour le groupe qui a reçu le fameux placebo.
Mais c'est super intéressant. Fait que ça veut-tu dire qu'à un moment donné, on pourrait remplacer certaines molécules qu'on prend contre la dépression pour ça, tu sais, pour une
petite coupe
par jour?
Mais moi, si, mettons, je me ramasse, je suis végétarien, puis j'ai des certains troubles qui me laissent croire que je peux avoir une dépression parce que je mange pas de viande. Il n'y a pas de créatine dans la viande.
Ouais.
Si ne mange pas de viande, il n'y a pas de créatine.
Ouais. Fait qu'il y en a 0-0 finalement dans son alimentation du quotidien. C'est ce que tu
Mais c'est la première fois que j'entendais parler de cette affaire-là.
Je te dis, moi, les créatines, pour moi, ça a toujours été associé à des études plus négatives. Fait qu'effectivement, que ça vaudra vraiment la peine d'en parler avec Gabardi. T'sais, on a quelqu'un sur le Twitch qui nous dit qu'il l'a essayé plus jeune, lui, de la créatine, puis tout. Puis il dit, t'as raison, André, créatine, je prenais ça dans ma jeunesse et oui, ça peut causer des problèmes érectiles. Peut-être aussi que la formule a changé avec le temps. Tu améliores tes suppléments constamment. Là. Fait que j'imagine que c'est peut-être plus ça aujourd'hui puis ça dépend de la quantité, mais sais-tu quoi? Je vais le booker la semaine prochaine, Gab. On est dû pour y parler de toute manière. Fait qu'on pourrait y parler de nutriments puis de parce qu'ils en vendent là au tonique là, je veux dire des suppléments de bord en bord là.
Là j'ai tapé créatine effet secondaire problème érection. Contrairement à la croyance, la créatine ne donne pas de problème d'érection. La créatine ne provoque pas d'impuissance. Là, il y en a une couple de gars qui ont soufflé là.
Ouais, ben là c'est ça ce que j'allais te dire
ça
aussi.
Fait peur
c'est...
au monde.
Non mais attends, Yann, il y a une étude pour contredire toutes les études, hein. Ça peut être un débat éternel là. Ah, tu vois, j'ai quelqu'un qui m'écrit ici, qui me dit « Créatine, supplément... » C'est quelqu'un qui s'entraîne. « Supplément le plus recherché au monde, littéralement, aucun effet secondaire. » Quelqu'un qui s'entraîne, qui nous partage ça. On parlera à Gab. Je suis vraiment, vraiment, vraiment très, très curieuse.
Parce que problème d'érection et créatine, moi, j'ai jamais entendu ça. Puis là, je cherche sur les réseaux, sur Google. Puis il n'y a rien là-dessus.
Pas. Ouais. Mais je suis pas folle, on est deux au moins.
Les stéroïdes.
Fait que je suis sûre... Mais c'est peut-être aussi qu'effectivement, ça s'est mélangé, là. Mais le point, c'est qu'il y a un moment où quand on parlait de suppléments, pour les gens, c'était plus négatif que positif. Les études ont...
Ah, ouais.
Avec le temps, se sont refaits, puis c'est peut-être une vieille étude dont je te parle, là. Mais je me souviens que j'étais super jeune, puis on disait ça, que la créatine... Je disais ça à mes chums. Prends pas de créatine, tu vas arrêter de bander.
Mais ça se peut-tu que... T'as eu un biais parce que les gars,
peut-être,
ils prenaient des stéroïdes plus de la créatine. Fait que t'as fait comme le lien entre les deux.
Gars, tu vois, les effets secondaires relatés remontent de vieilles études des années 80-90. Je suis pas cinglée, au moins, ça
t'es
me rassure.
T'es né en quelle année?
En 85.
OK, hey, on a une émission aujourd'hui qui est bien remplie, encore une fois, avec Mademoiselle V.
Oui, Mademoiselle V qui va venir nous parler de nymphomanie.
Ah!
Ouais, ça, c'est les gens qui... On pense souvent à ça comme si c'était positif puis c'était hot, là. Tu sais, les gens qui ont besoin...
Les trois premiers mois
d'une
relation avec une nymphomane, ça doit être vraiment hot.
Bon, mais c'est ça. Les gars, vous avez ce biais, là.
Mais les trois premiers mois.
Ben, c'est ça. L'affaire, c'est qu'à un moment donné, la nymphomanie, ça doit devenir fucking épuisant pour quelqu'un qui l'est. Ça doit pas être drôle, en fait, là, d'avoir besoin de ça constamment au point où...
Pour le conjoint ou la conjointe qui l'est pas. Ça doit être épuisant aussi.
Fait que c'est de tout ça qu'on va jaser avec Mademoiselle V qui est déjà en studio avec nous.
All right. Ça va être une grosse journée d'actualité aujourd'hui, les amis. Notre premier ministre sortant va démissionner. Notre premier ministre entrant, qui a été élu par des cartes de membres, va rentrer. Donc, c'est la sermentation. Il va y avoir des ministres qui vont être mis en place. Ce qu'on sait, c'est que Jean-Yves Duclos ne sera plus ministre. Là. Il ne sera même plus ministre responsable du Québec ou de la grande région de Québec. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans ce dossier-là. Certaines personnes croient qu'il y a d'autres personnes qui vont faire ce travail-là, mais j'attends que ça soit confirmé. Donc, Mark Carney, qui va rentrer en poste aujourd'hui, pour combien de temps, c'est ce qui reste à savoir. Sarah Dufour, je m'en vais dans le bois sur les ondes de boulevard. Si vous avez des choses à nous dire, 418-971-1021, 418-971-1021.
Avec Marceau et Audrey Pinchot.
Boulevard 1021.
10h24 minutes, c'est 1 degré sur Québec, généralement ensoleillé pour aujourd'hui, avec un peu de nuages pour ce qui est de ce soir, minimum de moins 1, maximum de 7 pour aujourd'hui. Demain, samedi, ensoleillé avec un maximum de 9 degrés et dimanche, nuageux avec un maximum de 16 degrés. Mademoiselle V, on va faire son segment tout de suite après la pause, mais juste avant, elle avait des éclaircissements pour la fameuse créatine des années...
90. Oui, puis je trouve ça vraiment intéressant parce que je la voyais hocher de la tête pendant qu'on en parlait, puis elle n'osait pas embarquer, mais non. Son point n'est pas fou, pas en tout.
Ben, en fait, c'est que de ce que tu parlais, les années 80-90, la créatine, on ne pouvait pas se la procurer chez Popeye ou n'importe quelle autre
c'était
boutique.
C'était pas sur les tablettes.
C'était pas sur les tablettes, c'est ça. Il fallait les prendre de la rue. Puis à ce moment-là, c'était souvent dilué avec un autre agent chimique, que ce soit de la testostérone ou autre chose, pour que les gens continuent d'acheter le produit. Ce qui fait qu'à ce moment-là, il pouvait y avoir des difficultés érectiles. Donc oui, tu as raison, c'est un courant populaire à un moment donné où
qui
tout le monde
promené.
A pensé. Mais aujourd'hui, si vous l'achetez dans une boutique réglementaire, verre, vous ne devriez avoir pas d'effet secondaire à ce niveau-là, du moins.
C'est prouvé que... maintenant que c'est bon.
Oui. C'est ça. Parce que tu vois, toutes les études puis tous les écrits par rapport à la créatine, ça a l'air que c'est un produit qui est efficace, qui aide énormément de personnes, puis que sinon, c'est pas vrai, avec les problèmes érectiles.
Oui.
Sauf qu'avant, avant ta naissance,
mais
peut-être.
J'étais... Non, mais j'étais pas folle. Moi, c'est tout ce que je voulais entendre. Ouais. Je savais que ce courant de pensée-là avait existé.
Comment va ta petite voix intérieure?
Elle est pas sûre. Elle se pose des questions.
Les icônes du métal suédois sont de retour. C'est Meshuga. C'est la tournée nord-américaine 2025 qui s'arrête au Centre Vidéotron le 28 mars prochain avec des invités spéciaux, Cannibal Corpse et Carcass. Audrey va certainement être là pour faire le mosh pit. Hein?
Oui, toujours le mosh pit, c'est ma place préférée.
C'est ton genre, mais sérieux, c'est une musique qui déménage. Allez sur gestev.com ou encore sur ticketmaster.ca pour vous procurer les billets. Moi, j'ai une paire de billets pour vous autres à l'instant. 418-971-1021, 418-971-1021. Audrey, le mot de passe.
Le mot de passe, ça va être créatine, tiens. 88, faut que t'arrêtes, Yann, faut que t'arrêtes, t'apprends pas. 418-971-1021.
Ce segment d'émission, présenté par qui à Québec?
All right, on va aborder un super de bon sujet avec Audrey et Mademoiselle V. Salut Mademoiselle V, on est content que tu sois là.
Et merci de m'accueillir.
Tu trouves-tu qu'on est drôle à s'assassiner, moi et Audrey, tout le temps?
Ben, je vous trouve cute, c'est comme un vieux couple.
Ouais, on est de même.
C'est vrai?
Ouais.
Vous vous chicanez, mais vous vous aimez, puis ça paraît.
On s'est jamais chicané.
Ben non, mais tu non, pas des petites chicanes, mais des petites piques.
On se pique, quoi. Oui, on s'énerve.
J'y pitche le singe.
Oui. Puis je le ramasse, puis j'y repitche.
Exact.
C'est ça.
Mais ça va, Mademoiselle V, t'as-tu passé une belle semaine?
Ben, j'ai passé une belle semaine, et vous?
Oui, on est content de vous voir, puisque aujourd'hui, on aura un sujet qui est vraiment hot. On va parler de la nymphomanie.
Hot, hot, hot.
Je serais curieux de recevoir les témoignages des auditeurs et des auditrices. Ben, de un, êtes-vous nymphomane, oui ou non? Mais de deux, comment vous faites pour vivre avec un partenaire ou une partenaire qui est nymphomane? Est-ce que ça avait bien fonctionné ou ça n'avait pas fonctionné? Si vous êtes nymphomane, c'est quoi les moyens que vous utilisez pour pas trop faire subir le partenaire ou la partenaire?
Oui, c'est ça.
418-971-1021 par texto.
C'est quoi la nymphomanie, premièrement, mettons, là, de façon textuelle? Parce que j'ai l'impression qu'on se fait des idées là-dessus aussi. Là. C'est très film. Puis je veux comme savoir ce qui se passe réellement quand tu l'es, puis ça touche-tu beaucoup de monde?
En fait, on pense que c'est cute et que ça c'est relié à le besoin de sexualité régulier, mais c'est plus que ça. En fait, c'est un trouble du désir qui est caractérisé par le besoin d'avoir des relations sexuelles, mais constamment. C'est une maladie mentale et c'est une pathologie sexuelle en même temps. C'est comme avoir faim sans fin. La faim n'arrive jamais, tu comprends? Ces personnes-là qui sont les femmes, quand on parle de nymphomanie pour les femmes et on parle de cytiracis pour les hommes. C'est un terme qu'on emploie peu aujourd'hui.
Ouais, quand tu mets ça sur Tinder...
c'est ça, personne comprend, ça a l'air louche.
Oui, ben, parce que ça a rapport... On a changé la terminaison au début du 21e siècle parce que nymphomane veut dire fée et est folle des petites lèvres. Satiraciste, ça a rapport avec la mythologie.
Nymphomane, la définition, je n'haïs pas ça.
Oui, mais en tout cas, vu que c'est un trouble mental, on ne voulait pas associer la folie, puis on ne voulait pas que ce soit vu comme une maladie. C'est pas la faute de la personne, c'est ça que je veux dire, dans le fond. Okay? Donc, c'est une dépendance au ressenti que tu as quand tu as une relation sexuelle. Le fait de te sentir, là, je m'excuse, là, mais pleine. Je sais pas comment l'expliquer.
Ah ouais, non, mais l'image est forte, je comprends, mais c'est-tu dans le DSM, mettons? C'est-tu vraiment reconnu?
Oui, absolument. Oh, ouais, oui, okay, tout à fait. Ça touche à peu près 3 à 6 % des femmes. Et on parle à ce moment-là de relations sexuelles assez mécaniques. La façon que ça fonctionne, c'est que la personne est envahie par des pensées sexuelles constamment. Et ça va prendre le dessus parce que cette personne-là a déjà des pathologies psychologiques comme, par exemple, un manque d'estime de soi, un traumatisme, une dépression. Fait que le sexe devient comme le remède à ça. C'est la sensation d'être pleine, mais c'est toujours à recommencer.
Est-ce que c'est la course constante à l'orgasme?
C'est l'orgasme, oui, mais comment tu te sens pendant que tu le fais? Okay. T'es importante aux yeux de quelqu'un, t'as une certaine de pression affective sur cette personne-là, et il faut penser que ça vient avec une culpabilité, une honte et un dégoût incroyable parce que c'est correct venant d'un homme. mais venant d'une femme, d'être constamment avoir besoin de se faire pénétrer, parce que c'est beaucoup, beaucoup par rapport à la pénétration.
Ah, fait que la masturbation vient même pas nécessairement régler le problème.
La masturbation, elle est constante quand il n'y a pas de partenaire qui est là, mais elle ne règle jamais rien. Okay. Et c'est au point où ces personnes-là vont se faire, par exemple, mal physiquement à force de masturbation et de devoir aller vers des chirurgies correctionnelles.
C'est une souffrance intérieure aussi.
Ce n'est que souffrance intérieure. Okay. On a tendance à voir ça comme quelque chose de cute. Là. Ça touche tous les aspects de la vie, que ce soit au niveau du travail, du social, de l'amical. Parce qu'elle imagine, la femme, là, c'est une addiction à la sexualité. Donc, elle va prendre le petit ami de son ami. Là. Ce ne sera pas un problème.
Elle s'en fout. Là. C'est plus fort qu'elle.
Elle va coucher avec son patron. Il n'y aura aucun problème avec ça.
C'est-tu pas pris au sérieux quand tu y penses?
Y a-t-il des associations de nymphomanes?
Oui. En fait, aujourd'hui, on appelle ça l'hypersexualité, trouble de l'hypersexualité.
En tant que journaliste, moi, je pourrais assister à ça, oui. ces témoignages-là.
Oui.
C'est...
Il y a Québec, c'est Québec sexolique anonyme pour Québec.
Ah, ouais. Est-ce qu'ils peuvent être addicts aussi à l'hormone que le cerveau libère après l'orgasme?
Absolument. C'est tout ce qui est oxytocine. C'est de l'addiction. La nymphomanie, c'est une addiction au sexe et au ressenti du sexe. Donc, tout ce qui est oxytocine, dopamine qui vient après la relation sexuelle, bien, ça embarque, mais c'est tout de suite besoin d'être remplacé par une autre dose.
Donc, c'est comme n'importe quelle addiction, alcool, drogue, le feeling, finalement, c'est carrément ça.
Absolument, oui. Puis là, moi, j'ai écouté un documentaire pour me préparer un petit peu parce que, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé du sujet. Et c'est l'histoire d'une femme que je vais vous raconter aujourd'hui. J'ai fait des petits extraits audio. Et puis, on va commencer par vous présenter son histoire. Alors, on y va.
Je ne me souviens pas du tout des visages, des yeux, des expressions, des regards. Je ne me souviens absolument pas. Je suis aujourd'hui incapable de dire avec combien de personnes j'ai fait l'amour. J'en ai aucune idée. J'en sais rien du tout. Et je crois que ça me fait peur de le savoir. Lorsque j'étais petite, je faisais l'amour avec mes peluches déjà. Et ça me procurait, je pense, des orgasmes. En tout cas, beaucoup de plaisir et de détente aussi. Et puis, je faisais l'amour avec mes copines. On a appris ensemble de manière tout à fait naïve.
OK.
Premier extrait.
Assez particulier. Il y a des auditeurs qui nous écrivent, Mademoiselle V. Oh mon Dieu, que j'ai hâte de vous entendre avec Mademoiselle V. Mon ex était nymphomane, médicamentée. Oh. Elle pouvait passer des 5 heures de temps facile à se toucher, à s'en faire mal. Et ensuite, ouais. On ne pouvait plus avoir de relations sexuelles ensemble. J'avais l'impression que ça gérait complètement toute sa vie. Elle se mettait aussi dans des situations peu recommandables qui pouvaient même la mettre en danger.
Hey, c'est pas drôle.
Non, c'est vraiment. C'est pour ça que je tenais à en parler parce qu'on trouve ça drôle. Hein, moi, j'ai rencontré une nymphomane. Non, tu veux pas rencontrer une personne nymphomane parce qu'une personne nymphomane ne peut pas avoir de vie de couple normale. C'est une personne qui va constamment devoir relayer sur l'infidélité et malheureusement qui fonctionne à ça, qui carbure à ça pour avoir une certaine confiance en elle. Je ne sais pas si vous voulez connaître un petit peu les causes, parce qu'évidemment, il y a les causes associées à ça, ce qui est le plus important. Il y a les causes médicales. Quand c'est associé, entre autres, souvent à la maladie bipolaire, hein, la phase maniaque de la bipolarité va souvent être dans le trouble sexuel. Donc, c'est souvent associé à cette maladie-là. Pas toujours. Ça peut être des effets secondaires, des corticoïdes, un médicament pour le Parkinson qui peut déclencher ce trouble-là du jour au lendemain, oui. Ça peut être aussi une dysfonction des neurotransmetteurs. Puis si c'est soudain, même une origine neurologique. Et il y a aussi... avant, numéro 2, s'il te plaît, DJ. On va entendre.
J'ai commencé à avoir des amants.
Excuse-moi, numéro 2?
Oui, s'il te plaît.
J'ai commencé à avoir des amants. Je m'éclatais. J'avais l'impression d'être très forte et puis d'être très belle et puis d'être une femme, en fait. À cette époque-là, je descendais dans la ville et le premier bar que je trouvais, je me posais et ça va très très vite. Un clin d'œil, salut, comment tu t'appelles? Tu m'offres un verre, ouais, ok, bon. On va chez toi, ça va très vite parce que et même les codes, il n'y en a plus. Il n'y a plus de séduction, on est autre part.
OK, c'est, on passe tout de suite au lit.
Exactement. Puis, il y a aussi les causes psycho-affectives qu'elle va nous décrire dans le prochain audio. En fait, les causes psycho-affectives, c'est souvent l'abandon d'un parent. Imaginez ce que l'abandon d'un parent peut faire là-dedans. C'est énorme, une carence affective. Dans le fond, c'est que la petite fille qui a perdu son père, par exemple, durant son enfance, va avoir tendance à vouloir entourer les autres de cette affection-là pour les garder près de soi. Dans le fond, une certaine forme de dépendance affective.
Tu as l'air complètement débile.
Oui, c'est garder l'autre en le possédant, c'est de l'attachement affectif. Et le dernier, on va l'entendre sur l'audio numéro 3, qui est le traumatisme sexuel. Si tu peux nous faire entendre, mon cher ami, numéro 3.
Je pratiquais un sport assez intensivement. Et j'avais un moniteur à qui je faisais confiance. J'ai subi des attouchements pendant 2 ans et demi. Et puis, c'était notre secret, donc cette personne, elle m'a pris cette innocence que j'avais auparavant. Parce que j'ai plus jamais abordé mon corps de la même manière.
Après le traumatisme, le corps peut devenir quelque chose qui est totalement, qui ne nous appartient plus et qui, pour la seule façon de se sentir bien, doit être offert à quelqu'un d'autre. C'est spécial, hein? Ça vous donne un aperçu totalement différent. Hein?
Vraiment. Comment une personne qui nous écoute présentement peut savoir si elle est une personne qui est nymphomane ou pas?
En fait, il y a plusieurs questions à se poser. Je dirais 3 questions principales pour déterminer si vous devriez aller voir un spécialiste. Est-ce que le sexe est une obsession pour moi? Donc, est-ce que ça m'empêche de vaquer à mes performances ou mes choses quotidiennes? Par exemple, j'ai vraiment envie de me masturber, mais j'ai une partie de hockey à 7 heures. Fuck le hockey, je vais me masturber. OK? Ça, c'est une
problématique. Quand ça devient irrationnel.
Absolument. Est-ce que mon envie d'une relation sexuelle est la réponse à mon stress ou mon anxiété? Donc, quand je suis stressée puis anxieuse, est-ce que je veux tout de suite avoir une relation sexuelle pour me soulager? Ce qui est un geste dépendant, en fait. Et la troisième, malgré une sexualité forte en contenu et en fréquence, est-ce que ça me satisfait ou je dois toujours aller plus loin constamment? Ça, c'est des bonnes questions à se poser. Si la réponse est oui à ces 3 réponses, je vous suggère de faire un petit peu plus ample recherche sur le trouble de l'hypersexualité, parce que c'est comme ça que ça s'appelle aujourd'hui, et possiblement de rencontrer votre médecin qui pourra vous aider pour la suite.
J'ai l'impression que ça peut devenir tragique aussi, dans la mesure où si c'est un peu incontrôlable puis tu as besoin d'une relation sexuelle, c'est parce que ça peut venir jouer sur le consentement de l'autre assez rapidement. Là.
Voilà, on va en parler tantôt, là. Les conséquences, hein, on est rendu là. Je ne sais pas si ça tente de mettre l'audio 4, s'il te plaît.
Il y avait des réelles crises de manque, des ressentis très intenses physiquement, ces crampes qui t'assaillent et tu sens que c'est parce que tu as besoin d'être pénétré. Et c'est tout sauf du plaisir, c'est du dégoût. Dès lors que l'acte est passé, je me sens mal, très mal. Une vraie descente aux enfers. Et le manque se crée et il faut recommencer. Encore et encore. Et le fait de ne pas être assasié, de se dire qu'il pourrait y avoir une tribu entière qui nous passerait dessus et ça ne satisfait toujours pas.
Hey boy.
C'est vraiment comme une drogue, hein? C'est vraiment spécial. Et puis, c'est un enfer que ces personnes-là vivent. Et c'est un sevrage. Imaginez, elle dit qu'elle a des symptômes physiques au sevrage de la sexualité. Et je l'ai vu dans le documentaire, là, on voyait des gens qui étaient en sevrage et qui avaient clairement des grosses crampes, ne se sentaient pas bien. C'est comme une drogue. Et puis, tu le dis, la multiplication aux relations sexuelles, elle est dangereuse parce que souvent faite sans protection. C'est le moindre de tes soucis de trouver un condom ou de te protéger. C'est de l'infidélité constante parce que la personne, aucun homme ne peut pouvoir satisfaire une nymphomane ou en tout cas difficilement dans le temps, si ça se poursuit dans le temps. Et les conséquences, eh bien, elles vont loin, hein? Elles vont jusqu'au viol. On va l'entendre dans un audio qui s'en vient. Mais ce qui est surtout difficile, je crois, puis elle l'exprime bien, c'est la solitude. Dans le fond, quand on dit qu'elle veut se sentir pleine, qu'elle veut être remplie, c'est qu'elle est vide sans ça. Elle a besoin de ça pour combler cette solitude-là.
Mais même socialement, je veux dire... Tu sais, là, tu nous en parles, puis on est détachés, mais je veux dire, demain matin, je rencontrerai une personne, puis là, je suis remplie de jugement en passant à mon sac qui est à côté, là. Je rencontre une personne demain matin qui me dit qu'elle est nymphomane, puis elle me raconte tout ça, là. mon premier réflexe, j'ai l'impression que c'est de rire, de me dire, voyons, c'est invraisemblable ce que tu me racontes, là, que t'as pas de conscience au point où tu commettrais des viols, que t'as pas de conscience au point où tu trompes ton chum sans arrêt. Tu sais, dans ma tête, je sens que j'aurais de la misère à y croire.
Oui,
je pense que ça doit,
invraisemblable.
Ben, ça doit faire partie aussi des raisons pour lesquelles c'est super difficile.
Cinq.
Ouais.
Il y a eu aussi, moi, mon comportement de violeuse. C'est une personne qui m'attirait physiquement et je le voulais, je le voulais, je le voulais. Se refusant à moi, la seule solution que j'ai trouvée, eh ben, c'est de m'introduire chez lui. Et je me suis vue lui monter dessus sans aucun préliminaire, aucun la personne dormant. Dans ce genre de situation, et quand ça va très vite, on pense rarement à mettre un préservatif. C'est le cadet de mes soucis à ce moment-là, quoi. Du coup, lorsque l'acte est passé, c'est terrible. C'est terrible.
OK, fait que le gars refusait ses avances.
Ouais.
Il dormait, elle est rentrée chez lui, elle a embarqué dessus, puis elle l'a violé.
Oui. On pense que c'est pas possible chez les hommes, mais c'est faux, hein, parce que les érections sont souvent involontaires, dues au stress ou même durant pendant que tu dors.
Oui, oui.
Donc, ça peut être assez facile.
Il y a un texto qui entre qui va dire tout ce que je pense qu'on pense qu'on va dire suite à cet extrait-là. Il dit, on jase, là, mais la porno nous montre un modèle de femme qui se rapproche de la nymphomanie.
Exactement.
Pour ça, peut-être que les gars pensent que c'est cute. Parce que le scénario qu'on vient d'entendre, je suis désolée, je suis sûre qu'il y a une couple de gars dans leur char qui se sont dit « Ce serait pas pire, ça? »
Tout à fait. C'est la réaction de tout le monde.
Si la fille te plaît, là?
Ben oui, si la fille te plaît, évidemment, mais je veux dire...
Si t'es consentant?
C'est quand même random, là.
T'sais, faut que tu penses que ça vient aussi avec souvent des troubles psychologiques forts à côté, là. Fait que c'est pas seulement au niveau sexuel. Il y a aussi toute l'impulsivité à travers tous les aspects de sa vie qui sont là.
Moi, j'ai fréquenté une fille qui était une nymphomane.
Oh.
C'était vraiment intense. C'était matin, midi, soir. Quand j'étais pas là, elle me disait qu'elle s'occupait d'elle-même toute seule. Mais ça a duré 6 mois, mais j'aurais pas pu marier cette fille-là, là.
Ça, t'aurais probablement pas été capable de la garder à toi toute seule pendant tout ce temps-là, mettons.
Ouais, si ça me passait pas par la tête, là.
Non.
Voyons donc. Elle était bien.
Ouais. Les 10 secondes de toute sa vie, hein, Yann?
Oui. 3 fois par jour, écoute, 30 secondes, il n'y a rien, là.
Oui.
On peut donner un peu de soi.
Un grand performant.
Mais oui, je ressentais qu'elle avait une certaine détresse, là. Tu sais, à vouloir constamment juste ça. Puis, à un moment donné, tu as l'impression qu'elle veut te garder...
T'es son objet, là.
Moi, mais non, je voyais pas ça comme ça. Elle voulait pas que j'aille ailleurs, parce qu'on se fréquentait, là. Fait qu'elle voulait pas que j'aille ailleurs. Fait que j'avais l'impression qu'elle faisait l'amour avec moi, au départ, pour que, justement, si je sors d'un bar le soir, j'avais pas le goût de tenter de me reproduire.
Oui, tout à fait. Elle veut te garder proche.
OK, ouais. Mais moi, je voyais pas ça comme ça. C'est juste qu'elle avait un besoin intense de faire l'amour. Ça aurait été avec un bâton de baseball ou avec moi, ça aurait fait la même affaire.
Effectivement.
Mais moi, de la façon dont je le percevais, j'étais jeune à l'époque, j'étais autour de 20-21 ans, puis elle était un petit peu plus vieille que moi, elle avait je pense qu'elle avait 30, 32, 33 ans à peu près à l'époque. Mm-hmm. Puis ça, 6 mois, mais jamais j'aurais été capable d'envisager une vie avec cette fille-là. Je veux dire, c'était juste ça.
Ouais.
C'était juste ça.
Il y a un auditeur sur le Twitch, je trouve ça intéressant ce qu'il dit, parce que souvent on entend des gars justement, ouais, mais c'est tellement le fun plusieurs fois par jour. Puis il dit, ouais, mais c'est comme n'importe quoi. La poutine, c'est bon, mais quand t'en manques 5 fois par jour à un moment donné, tu te tannes, tu sais.
Ouais, non, c'est ça. On finit par se tanner du goût. C'est un peu normal. Puis,
mais t'as pas de forcer avec eux autres, là.
Non, non.
Tu sais, quand tu es avec une nymphomane en couple ou en relation, là, t'as même pas besoin de faire le travail, là. Le travail se fait seul.
Oui, mais le point, c'est que maintenant...
T'es un accessoire. C'est vraiment comme
c'est
ça.
Fait que 6 mois, ça fait. Mais après ça, à un moment donné, j'aimerais ça qu'elle me reconnaisse pour qui je suis.
Oui, mais... Ah, mon Dieu! Hey, non, mais j'aime tellement ce qu'on vient de vivre. Parce que dans un quotidien sain, souvent, l'homme est très sexuel dans son approche.
Ouais, mais non.
Donc... Et la femme a besoin d'être un peu plus chauffée au niveau du poil.
Ouais.
Puis je trouve
elle,
ça...
c'était pas ça.
Je trouve ça cocasse parce que il y a beaucoup de femmes qui se plaignent exactement de ce que tu viens de représenter.
Je me souviens que j'amenais une bouteille de vin. Là, elle habitait sur Champlain à l'époque. Là. J'amenais une bouteille de vin, puis on était supposés de faire un souper ensemble.
T'avais
puis...
pas le temps de l'ouvrir.
J'avais pas le temps d'ouvrir la bouteille.
Non, il fallait que tu te serves de la bouteille. Oh non, non, non.
Non, Audrey, on n'avait même pas le temps d'ouvrir la bouteille.
Ouais, je peux comprendre.
Elle avait ses priorités. Ouais, ouais, je m'excuse, c'était vraiment c'était une mauvaise blague.
Mais oui. Tu sais, quand on dit choix de partenaire, là, elle n'a pas de choix de partenaire. Le partenaire est accessoire dans l'histoire. Hein? Faut penser à ça. C'est, souvent, on dit, oui, mais comment elle fait pour trouver un paquet de monde? Elle les trouve pas. Je veux dire, elle va là, puis elle dit, t'as du sexe avec moi, puis ça finit drette là, tu sais.
C'est comme ça devient un besoin primaire, finalement.
C'est un besoin primaire. C'est une drogue. C'est la même chose que se shooter à l'héroïne quand ça va faire ton 4 heures, ça va faire ton 4 heures, puis tu vas en avoir besoin. Puis évidemment, il y a des traitements pour ça. Avant de les écouter, on peut peut-être écouter le dernier audio, numéro 6.
Mon plus grand fantasme sexuel, c'est de faire l'amour, d'apprendre. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai vraiment la sensation d'accomplir ma sexualité en dehors de moi. Je commence à m'aimer et à... Je sais d'où je viens. J'ai peur de l'avenir, j'ai peur de vers où je vais, mais ça m'excite et ouais, je rêve de faire l'amour avec quelqu'un que j'aime, tout simplement.
Qu'est-ce que ça fait si deux nymphomanes se rencontrent?
Épelay.
Souvent, les nymphomanes vont avoir besoin de plus que juste du plaisir secondaire. Donc, ils ont besoin de se sentir pénétrés. Donc, souvent, il y a certaines femmes qui vont être bisexuelles ou homosexuelles ou lesbiennes, mais en général, elles sont hétérosexuelles pour la simple et bonne raison que l'aspect de la pénétration est très important.
Mais si t'as un je sais plus c'est quoi le mot pour les hommes, là, mais un nymphomane et une nymphomane...
Un satyriasis,
oui.
J'imagine qu'ils se complètent.
Oui, mais ils vont se détruire l'un l'autre aussi. C'est comme deux drogués ensemble. Je veux dire, ça va juste prendre deux fois plus de risques pour arriver à ses fins. Puis éventuellement, ils ne seront pas capables de se satisfaire l'un l'autre de toute façon. Ils vont devoir aller
physique,
ailleurs.
J'ai l'impression, à un moment donné aussi, là, y a, on rit bien, là, mais il y a une limite à ce qu'une femme peut endurer au niveau de la pénétration. Et il y a probablement une limite, j'imagine, à ce que l'homme peut endurer.
Franchement, oui, bien, ben oui, parce que...
Moi, j'ai déjà vu des gars irriter du bout, là.
Ben oh, ça, oui. C'est ton problème.
Mais les hommes qui souffrent d'un trouble de l'hypersexualité souvent ouais. vont avoir cette faim intense-là, mais pas nécessairement l'érection qui vient avec parce que justement, ouais. ils seraient tout le temps en érection.
Ça marche ouais. pas,
la oui. machine ne peut pas fonctionner, mais ils ont quand même les pensées sexuelles récurrentes. C'est ça qu'il faut penser. C'est qu'elle est au travail, la madame, puis tout ce qu'elle pense continuellement, c'est ça va être quand la pause pour aller aux toilettes pour pouvoir aller me masturber.
Puis il y a beaucoup de monde qui font ça à
oui.
job.
Oui!
À quoi vous pensez?
Oui. Ben, c'est l'endroit qu'on passe le plus de temps à part chez nous.
Masturbation.
Ouais.
Ça a l'air d'être banal, non, mais... soudainement.
Là, j'hésite dans ma tête à... Est-ce qu'elle y a déjà pensé? L'as-tu déjà fait?
Moi, je suis allée aux toilettes si j'ai vu des douches. Hein?
J'y pose-tu la question?
Non. C'est vrai que ça sonnait banal. C'est juste que j'ai tellement entendu d'histoires.
Oui, c'est ça.
De d'amour au travail et de... Que... Ça fait partie du quotidien.
Oui, mais de se gauler à la job, il y a une limite, là.
Oui.
Mais quand ça devient un besoin physique intense, sinon, tu n'es pas capable de te concentrer, tu n'es pas capable d'être fonctionnel. C'est une maladie psychologique, là. Donc, automatiquement, je veux dire, tu n'es pas capable de te concentrer sur ta tâche.
Ça s'explique
pas
mal au boss, là.
Oui.
Quand tu te fais prendre.
Oui.
Désolé, ça, c'est boss, c'est une maladie psychologique. Là.
Effectivement, mais c'est il y a des traitements, hein, il y a des traitements. Là, si vous pensez vous reconnaître là-dedans...
Ouais.
Là,
il y a des gens qui nous écrivent qui pensent se reconnaître là-dedans.
Bon, ben écoutez, je vais vous dire un petit peu là, quel est le plan d'action pour le traitement de la nymphomanie ou de l'hypersexualité, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. D'abord, ce qu'on va faire, c'est un plan d'intervention en plusieurs plans. On va commencer par un addictiologue pour comprendre le geste dépendant. T'sais, dans le fond, comprendre pourquoi est-ce que j'étais sur cette urgence-là et comment je dois y répondre pour aider à mon addiction. Ensuite, il y a le sexologue ou le conseiller en sexologie comme moi qui est là pour te réapprendre à avoir de la sexualité saine au travers. Parce que tu ne peux pas arrêter d'avoir du sexe du jour au lendemain puis faire abstinence. Là. Mm-hmm. C'est comme de partir d'héroïnomane à rien pantoute, genre des tic-tacs. Là. Mm-hmm. Ça ne marchera pas. C'est la même chose pour elle. Donc, il faut à ce moment-là réapprendre à se faire plaisir, mais de manière saine et à avoir des relations de manière saine. Il va aussi avoir un psychologue qui va être là pour une thérapie cognitive et comportementale. C'est hyper important parce qu'on doit apprendre à vivre avec ce trouble-là hein, au quotidien. Et il y a un psychiatre aussi parce que c'est souvent associé à un mal psychologique comme de la bipolarité. Tantôt, on en a parlé. Et souvent, On va réussir à traiter la nymphomanie avec les antidépresseurs, puisque c'est un bloquant sexuel, si
c'est
on
vrai,
veut.
Ça enlève la libido.
Ah ouais?
Exact,
ouais,
ça, ouais. Pas complètement, puis encore là, les pensées sont récurrentes dans leur tête. Mais le besoin physique, le besoin de se sentir rempli, comme je le dis, est moins là. Il y a l'hypnose qui donne des bons résultats, mais surtout, tu l'as dit tantôt, c'est les groupes de soutien. Tu parlais des sexoliques anonymes ici au Québec. C'est ce qui donne plus de résultats parce que là, imagine, toi, tu te vois comme un monstre, là. Tu te vois comme une bébite qui ne fonctionne pas comme tout le monde. Puis là, soudainement, tu arrives dans une pièce avec 30 autres bébites comme toi. Mm. Et que là, soudainement, ton problème finit par faire sens. Mm. Puis tu peux prendre tout ce que les autres ont comme truc, puis comme façon de passer au travers, puis de les assimiler toi-même.
Ouais, faut juste pas que tu n'ailles pas prendre un verre avec les autres après.
Non, c'est ça. Faut que tout le monde soit bien habillé avec des cols roulés. Parce que...
Oh, barnouche, hein? Hey, c'est capoté.
On voit souvent ça des sketchs de SNL, entre autres, ouais. Là, où ils arrivent dans ce genre de rencontre.
Moi, j'ai été au centre-ville de Québec, j'avais un appart qui était au troisième étage. Puis au deuxième étage, c'est quand j'ai rencontré la mère de mes enfants, c'était en 2006. On habitait dans cet appartement-là. Puis la dame qui était en bas quand on est arrivé, elle avait des relations sexuelles tous les soirs.
Mm-hmm.
On l'entendait, là, c'était une vraie chanteuse d'opéra. Par la suite, Audrey...
Peut-être qu'elle faisait vraiment de l'opéra.
Peut-être. Mais les bruits que j'entendais, c'était des sonorités. Okay.
Tu reconnaissais, là.
Mais il n'y avait pas une certaine musicologie, mm-hmm, mettons.
Okay. Je comprends.
En tant que spécialiste. Là,
oui, on sait.
La musicologie n'était pas comme parfaite, là, tu sais. Puis quand elle est partie, là, c'est un laitier qui est venu habiter là.
Oh boy.
Puis le gars se levait à 3h30, 4h du matin et à... Tous les matins, systématiquement, c'était la branlette part. Tous les matins.
Non.
Puis comment je faisais pour le savoir? La finale. J'entendais toujours la finale. J'avais l'impression que c'était un taureau qui était en train d'expulser des milliards et des milliards et des milliards de spermatozoïdes.
Mais
seul.
Voyons donc, oui.
4 heures du matin. Tous les matins.
Mais tu parles lui, le laitier, ou elle, quand son chum partait?
Non, il était tout seul. C'est un monsieur tout seul. Il devait avoir une cinquantaine d'années.
Okay.
Puis au moment fatidique, là...
C'était sa routine. Aïe,
hein? Ouais. Ben, aïe, aïe. Hey, j'étais à manger un peu comme toi, là. Me lever à toi le matin parce qu'il y a quelqu'un qui décidait qu'il fallait que ça lève et qu'il se gaule.
C'est ton zoom du matin.
Oui, c'est ça. Il y avait un cadran que t'avais pas décidé d'avoir.
À un moment donné, la mère de Méga me dit « Ouais, mais Yann, va donc y dire. » Chris, j'explique ça comment? Tu peux-tu arrêter de te branler? Ça me réveille à toi et nuit.
Qu'est-ce que tu fais à 4h du matin? Parce qu'on entend bien des affaires.
C'est soit qui se fessait sur un orteil avec un coup de marteau ou...
Mais tu sais, la masturbation, Yann, c'est compulsif chez bien du monde.
Oui, hein? Mais c'est possible de faire ça dans le silence.
Puis il était laitier, tu dis?
Oui, il faisait ça. C'était
intéressant.
Laitier. Est-ce qu'il nous écoute présentement?
T'aurais dû proposer d'aller isoler son appart.
Parce que des fois, ça arrive qu'on parle... D'ailleurs, c'est arrivé. On parlait de deux personnes qui vont dans un collège, puis le père de ces deux personnes-là nous écoutait.
Oh.
Fait que là, je me disais, écoutons, le laitier ici.
Non, il y a juste des mauvaises blagues qui se font là, par texto, c'est tout.
Il y a beaucoup de laitiers, j'imagine, à Québec, de toute façon.
Il y en a de moins en moins, mais lui, c'était ça. C'était un laitier qui se branlait à tous les matins à 4 heures.
Oui, il y en a qui te proposent que peut-être qu'il faisait ses besoins, tout simplement. Il y en
non,
a
j'espère qui, qu'il remplissait les pêtes de lait.
Parce que...
Oh my God!
Les apparts, la façon dont ça fonctionne, c'est que les chambres sont toutes une par-dessus l'autre.
OK, la configuration est la même.
Fait que, tu sais, les toilettes étaient comme à l'autre bout de l'appartement. Fait que c'était vraiment sa chambre. Là. Fait que j'entendais la nymphomane, puis quand elle est déménagée, ben, c'est le laitier qui est rentré, puis lui, c'était le maître masturbateur à 4 heures du matin.
Mais c'est intéressant. Il aurait dû faire de la colocation.
J'ai jamais rencontré ce type de personne-là, puis je pense que je tiens pas non plus.
Tu veux dire les masturbateurs compulsifs?
Exactement, là, les nymphomanes ou les nymphomanes masculins.
C'est
ou
très lourd.
Ça a l'air triste, ça a l'air épouvantable. Mais je vais. Je suis moins avec jugement maintenant que je l'étais.
Pourquoi?
Parce que quand on a parlé que ce serait le sujet de ce vendredi, je me suis comme dit, ça va être cocasse. Tu sais, dans ma tête, non, mais j'imaginais des scènes de films. Tu sais, on a des fois des séries, là, dans Stat, il y en a une, Infoman, là. Tu sais, dans le sens que c'est quelque chose qui aime être pris dans les séries télévisées.
Les...
Exactement, ouais. Tu sais. Puis ça rentre un peu dans le commentaire de l'auditeur tantôt de ça sonne positif pour l'homme.
Mais de l'autre, moi, c'était positif, là. Je veux dire, je rencontre une fille, elle me plaît, puis elle est très ouverte là-dessus, puis je manque de rien à tous les jours.
Oui, mais malade psychologiquement.
Ben c'est ça. Là, tu nous apprends que ces gens-là souffrent énormément. Mais moi, là, j'avais 20 ans, là. Tu sais, ça...
Ah, ça, hot, là.
Tabarouette, c'est donc belle fun. Je rencontre une femme de 30 ans à cette époque-là. Oui. Elle est assumée, elle est libre, tout ça. Puis c'était à tous les jours, 3-4 fois par jour. Des fois, elle venait me voir à la job, elle attendait que je finisse mon chiffre. Puis après ça, c'était dans le char.
Oui.
Après 6 mois, je me rendais compte que ce couple-là ne pouvait pas être viable à long terme. Je veux dire, j'aurais pas pu te faire run, là. Bien que je suis pas si bien que ça.
Si jamais vous êtes intéressé à savoir ça ressemble à quoi la vraie nymphomanie, vive avec ce problème-là.
Ouais.
Il y a un film de 2013 qui s'appelle Lars von Trier, qui s'appelle Nymphomaniaque. Okay? C'est un film de 4 heures, by the way. C'est un film de 18 ans et plus. Oui, mais je te jure que ça paraît pas long.
Okay.
OK. Moi, je l'ai écouté d'une traite, là, pour une raison. C'est un film 18 ans et plus, donc évidemment, vous devez être adulte pour le regarder.
Okay.
Ce qui est spécial avec ce film-là, puis là, je sais, je vais me faire regarder croche, là, c'est que c'est excitant à regarder, mais dans un moment totalement immoral. Et là, on se sent comme elle se sent. Je sais pas, parce que veut pas, on est attiré par une certaine violence crue. Hein. Il y a nos pulsions animales à l'intérieur de nous qui peuvent être attirées par une scène d'une personne qui se masturbe d'un vidange, mettons. T'sais.
Non, mais on avait déjà effleuré ça. Oui. Ordonne ensemble.
Je suis le seul qui n'est pas excité par ça.
Non. Écoute, le film, on s'en reparlera.
On avait déjà parlé de ça, Ordonne, de Mademoiselle V, puis moi, sur le fait que des fois, il y a des gens qui se sentent mal en écoutant, mettons, puis là, c'est cru, je m'excuse, là, mais en écoutant des scènes de viol, parce que ne sont pas excités au point d'aller se toucher, mais malgré eux, il y a un petit frisson en dedans.
Va avoir une érection, parce que
ça reste du sexe, puis bon, ben là, on peut parler de côté animal si on veut, mais il y a certaines personnes qui se sont déjà posé des questions parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait une excitation devant une violence aussi intense.
Oui, bien c'est ça que ça nous provoque, ce film-là. Fait que ça prend quelqu'un qui est fort mentalement pour l'écouter, là. Peut-être pas à l'écouter ça si vous avez des traumatismes sexuels vous-même, mais si ce n'est pas une problématique et que vous voulez en apprendre plus, vous allez voir, on se sent comme l'héroïne de l'histoire, parce que c'est parlé, en plus, elle se confie à un homme qui fait de la pêche à la mouche, puis il fait des travers avec ça. Et là, tu fais, ah mon Dieu, ça fait du sens. Comment ça se fait que ça m'excite? C'est pas censé m'exciter. Il y a des références religieuses là-dedans. Fait que ça joue avec ta tête, mais ça te montre exactement c'est quoi la nymphomanie. Du viol masculin dont on va le voir dans le film, jusqu'à, je me souviens à un moment donné dans le film, elle voit un homme noir qui attend l'autobus et elle voit que son paquet semble assez évolué, fait qu'elle engage un interprète africain pour aller lui demander de coucher avec elle. Elle n'y a jamais parlé. Là. Elle l'a vu depuis l'abrébus à l'autre bout.
Mon doux Seigneur.
Et elle n'a aucune capacité de communiquer avec lui. Puis lui, il arrive avec un de ses amis sur place. Il n'a aucun qui parle le même langage qu'elle. Puis elle est excitée au bout de ça. Puis là, toi, tu capotes. Tu dis, oh my God, qu'est-ce qui va se passer là? Puis c'est vraiment très, très spécial. Je vous l'invite, si vous n'avez pas de traumatisme sexuel en tant que tel, écoutez-le.
C'est nymphomaniaque.
Oui.
C'est avec Charlotte Gainsbourg et Willem Dafoe.
C'est un film belge, je crois. Donc, je pense qu'il est disponible seulement en français, si je ne me trompe pas.
Bien, je regarde la bande-annonce en ce moment. C'est particulier.
Oui, c'est sûr que ça demeure des actes sexuels. Et by the way, Shia LaBeouf joue là-dedans, entre autres. Et il y a... toutes les scènes ont été tournées avec des prothèses là, et des acteurs porno en doublage. Donc, vous allez peut-être vous demander, parce qu'on voit vraiment là, l'amour oral se faire. Et puis, on se dit, hey, voyons, Shia LaBeouf et Charlotte Gainsbourg ont fait l'amour, tu sais. Mais en réalité, non, c'est des doublures qu'ils ont utilisées. Mais c'est vraiment très réaliste. Et la fin, c'est comme une fin au sixième sens, là, si on veut. Là, je vais pas vous la raconter, mais la fin, elle est achetée par terre. Je m'en suis mis 2 jours à m'en remettre.
Ah ouais.
Honnêtement, ouais. Excellent.
Mon Dieu, là, je écoute, ça va faire partie de mes plans, là, c'est sûr.
Mademoiselle V, c'est toujours un plaisir de te recevoir à chaque semaine. Là, je vois que tu as des plans de podcast avec Audrey. On peut-tu en jaser? C'est un secret? Ou...
Non, on peut en parler.
Vous avez parlé de quoi?
Saison 2 de Sex Tape. Si vous n'avez pas écouté la première saison, elle est disponible sur toutes nos plateformes, BLVD.fm, la chaîne YouTube aussi. Puis la saison 2, ben, j'ai l'honneur, effectivement, de la tourner au complet avec Val, avec Mademoiselle V. Fait qu'on va jaser toutes sortes d'affaires. On avait un meeting justement ce matin pour ça, à savoir, bon, ben, on commence par où, quel type d'invité on veut recevoir. Si vous avez des suggestions, des envies de sujets, peu importe, 88-971-1021, ben oui. Ça va commencer officiellement dans moins d'un mois, dans 3 semaines, juste après les backstage de Reg, là. Puis ils sont en ondes en passant tous les lundis soirs, 19h.
Merci, Mademoiselle V, pour les gens qui veulent te rejoindre.
Oui, on va sur Google, Mademoiselle V sexologie. On se faxe et on déjeune.
Salut.
Bye. Bye bye.
Ce segment d'émission, présenté par qui à Québec?
Bien chaud.
11h11 minutes. T'es-tu de même, toi, quand tu vois des chiffres pareils?
Quand je vois des chiffres pareils?
Ouais.
Genre, mettons, je vois tout le temps 2h22.
Ouais.
Ben oui, je vois toujours des signes.
Ça te gosse.
Mais moi, je vois toujours 11h11 et il est 11h11. Et chaque jour où il est 11h11 puis que je regarde, je me sens un peu débile parce que je fais un vœu.
22h22.
Ouais. Ou je vois le chiffre. Est-ce que tu as un chiffre, toi, que tu vois tout le temps?
Non.
Moi,
en fait, c'est
34.
Un billet qu'on a, j'imagine. C'est un billet qu'on se met dans notre tête, qui fait en sorte qu'on le voit plus souvent. Mais,
d'ailleurs, j'espère que vous avez fait votre vœu parce qu'il est rendu 11h12 et que vous avez perdu votre chance.
Ah, voilà. Mais il faut faire un vœu?
Ben oui. Il ne faut pas t'en parler à personne. Non, mais en fait, un vœu ou une croyance. Je ne te dirai pas ce que je fais parce que sinon.
Là, tu fais comme mes gars parce que je leur demande tout le temps c'est quoi le vœu que tu as fait à ta fête? Puis là, ils me disent papa, je peux pas le dire parce que sinon, ça n'arrivera pas. Puis là, j'ai tout le temps le goût de leur dire ouais, mais s'il y a bien quelqu'un qui veut réaliser tes vœux, c'est moi, bonhomme.
Oui, mais t'es pas le génie, là. Tu peux pas, fais pas ça, oblige-les pas, brise pas cette bulle-là. Ça, c'est de la foi, Yann. On appelle ça de l'espoir.
Ouais.
Et chaque jour à 11h11, quand je regarde l'heure puis je me rends compte qu'il est 11h11, je souhaite toujours la même chose. Tous les jours.
Le mariage?
Non. Non, c'est quelque chose de plus général que ça. Mais
la santé.
Et oui, je t'en parlerai pas, parce que je peux pas t'en parler, si tu comprends?
La santé.
Je t'en parlerai pas. Mais peu importe ce que tu souhaiterais, mettons que tu souhaiterais que, je sais pas, tes gars soient heureux, mettons que ce serait ça. Mais tu pourrais dire, toutes les, quand il y a 11h11, tous les jours, tu le répètes.
Puis ça a un impact.
Hey, la foi, Yann.
Oui. Je l'ai eu longtemps au secondaire, la foi.
Pour vrai?
Oui. Je disais, bon, j'ai fait un examen, c'est sûr que ce ne sera pas une bonne note. Puis là, je me disais, ça va être une bonne note, ça va être une bonne note, ça va être une bonne note. Pouf! Ça tombe.
Non, mais ils appellent ça la loi de. C'est, comment ça s'appelle? 89-71-102-1.
J'appelle ça de la folie, moi.
Non, il y a un terme, la loi de l'attraction.
Oh! The Secret. T'as embarqué là-dedans?
J'ai pas embarqué là-dedans. Mais la loi de l'attraction, je pense juste que c'est une façon, pour moi, je te le traduis bien banal, pour moi, c'est une façon de juste avoir un mindset positif.
Ouais.
Juste de te dire comme, hey, arrête de penser à tout le négatif qui pourrait arriver.
Ouais.
Pense au fait que tu vas l'avoir.
Ça, ça
et confiance.
Ça peut fonctionner. Je parlais avec Bruni Surin, là, puis lui, avant chaque course, Bruni Surin, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, là, c'était un athlète olympique québécois. C'était un gars qui courait extrêmement vite.
Ouais.
Puis à chaque course, il se voyait gagner la course.
Mais oui, c'est de la visualisation, dans le fond, la loi de l'attraction.
Puis il y avait, il faisait affaire avec des psychologues sportifs qui l'aidaient beaucoup à améliorer ses performances. Et souvent, on dit, les psychologues, c'est quand ça va pas bien. Mais dans le cas des sportifs ou des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires qui veulent continuer de mieux performer, ben ils ont accès à ce type de psychologues-là qui vont être axés sur la performance constamment. Puis c'est le truc qu'on avait donné à Bruni Surin, c'est-à-dire, quand tu rentres à l'hôtel, là, plutôt que de regarder avec qui tu vas courir, là, puis à savoir, n'as-tu un qui est dopé, n'as-tu un qui ne l'a pas, concentre-toi sur toi, concentre-toi sur ton couloir, concentre-toi sur chaque fraction de seconde que tu vas pouvoir retrancher
puis
à ton
ça,
record d'avant. Puis ça avait bien fonctionné dans son cas.
Mais oui, mais c'est juste
mais
de rester...
Secret, moi, je l'ai lu, puis je me suis dit...
J'ai pas lu ça, là.
C'est un petit peu de la folie.
Mais oui, mais c'est parce qu'il faut pas... C'est parce que là c'est ça, l'affaire. Tout peut devenir ésotérique, Yann, là. Mais tu sais, si tu prends juste la base, sans que ce soit nocif puis débile, là, c'est de parler à l'univers, dans le fond. Là. C'est de lancer ça dans l'univers, tu sais.
Toi, j'imagine que quand t'es sur les réseaux sociaux puis tu vois quelqu'un parler de ton signe zodiac...
Non, j'écoute
tu
pas.
Tu le lis.
Hé, hey, mon Dieu, Yannick, est-ce que t'es sérieux en ce moment?
Oui.
T'es-tu sérieux?
Oui.
Est-ce que tu m'associes vraiment à ça?
Yes, sir.
Pour vrai?
Oui.
Hey, là, je suis déçu.
OK, tu viens de me dire que tu visualises... C'est toi qui me donnes des coups de pied.
C'est toi, ça. Je pensais que c'était le poteau.
Je me suis dit, est-ce que t'es en train de me caresser
je
les pieds?
Je le Non, 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 mais là, je suis déçu. Là, que tu... Non, non, non.
Non.
Je... Non.
Non?
Je suis zéro. Je comprends rien à ça, en fait. Les lunes en Vénus, là, non, c'est
ouais.
pas... Poisson, j'ai jamais...
C'est-tu mais quel signe?
Sagittaire comme moi.
Mais tu le sais.
Ben oui, parce qu'il est né au mois de décembre.
Ouais.
Je connais les signes des gens autour de moi.
Okay.
Ma mère est cancer.
Uh-huh.
Ben oui, mais je connais leurs signes, mais qui s'entend? Qui,
mais il n'y a pas de similitude entre les cancers, mettons.
Non.
Ben puis, as-tu des similitudes avec Alexis, mettons?
Ben non, on est très différents.
Ouais.
Nos horoscopes, ça ressemblait beaucoup.
Oui. Puis qu'est-ce que ça dit pour le futur?
Pour le futur?
Deux Sagittaires?
Ben regarde, c'est
un fiasco.
Non, dis pas des choses comme ça.
Non, mais il se fait lever à 3h30 du matin, puis il fait 8 à 10 snooze avec deux téléphones cellulaires différents. Audrey, est-ce que ta dure là est épouvantable?
Ben peut-être, mais on est fait pour aller ensemble, on est deux Sagittariens.
Oui.
je suis pas là-dedans, pas en tout, OK? En passant, pour vrai, là.
Il y a des filles qui demandent à mes chums, sur Tinder, ça a de l'air, que c'est quoi le signe, ton signe astrologique?
Rien.
Oui.
Pour savoir si ça fit.
C'est ce que je me suis fait dire.
Ça, c'est weird.
Je dis chums, c'est des chums d'hockey, là. C'est pas des chums proches, là, mais c'est des chums d'hockey qui me disent oh, oui, nous autres, on est célibataire.
OK, Yannick, c'est quoi ton signe?
Moi, c'est scorpion.
Toi, t'es scorpion?
Oui.
OK, à ta minute, là, en ce moment, je vais aller chercher scorpion. On est. Bon, on est là.
Ça vire tout le temps, même, c'est tout le temps un fiasco.
Mais regarde, on va aller voir. On va aller voir ce que scorpion dit.
Ça dit, scorpion?
Ça dit ne cherchez pas tant à avoir le dernier mot. Ça donne pas grand-chose. Mais tu vois, ça, je trouve que c'est véridique. Faut que tu arrêtes d'essayer d'avoir le dernier mot puis t'estimer.
OK, ça dit ça sur moi?
Oui, c'est toi.
Je pensais de ta relation avec moi.
Non, non, non. Travaillez sous. Vous menez vos projets...
Faut travailler sous?
Vous menez vos projets avec expertise. Oh. Vous motivez les autres.
Ouais.
Et ça vous permet de briller dans les travaux d'équipe. Dans amour et amitié, vous aurez de bons moments avec les vieux copains. C'est ça que ça te dit.
OK.
Fait que, c'est-tu véridique?
C'est non. Ben, je sais pas. Je crois pas à ça.
Tu crois pas en tout à ça. Moi, ça dit que je suis perspicace, je perçois tout. Mais est-ce que c'est itil? C'est
check
de la
don,
merde. Ça me demande si je critique. Je critique pas.
Tu es constamment en train de me critiquer. Check donc notre compatibilité à moi pis toi. Là.
Fait que compatibilité, toi, tu m'as dit que t'étais scorpion? Scorpion?
Ouais, un pion con.
Scorpion
oui.
Et Sagittaire.
Compatibilité.
Compatibilité.
On va voir si c'est vrai, ça.
Compatibilité, ouais, mais là, c'est parce que l'affaire, c'est que ça dit tout le temps des affaires d'amoureux. Là,
ben oui, vas-y.
De caractère. Okay,
en cas de doute, t'as le gaz au bout.
Okay. Compatibilité amoureuse entre les signes Sagittaire et Scorpion, bon, tout ça va.